Marc Renaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de Mandarine Gestion. On va parler avec vous d'un anniversaire, celui de la faillite de Lehman Brothers, que tous les financiers connaissent bien forcément, et pas que, puisque ça a eu un impact bien sûr sur l'économie mondiale. Il y a 10 ans, vous aviez créé Mandarine Gestion, comme j'ai créé La Bourse et la Vie TV. Voilà, nous avons le même âge de ce point de vue-là. Quand on regarde en arrière et sur 2008, cette crise-là, vous pensez aujourd'hui que on a tiré les enseignements de cette crise?
Alors, je dirais plutôt qu'on en a tiré des enseignements. Il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites au niveau réglementaire dans les banques. Il y a pas mal de choses qui ont été faites au niveau solidarité internationale, même si c'est remis en question aujourd'hui depuis l'élection de Trump. Après, on ne tire jamais les conséquences. On va refaire, ou plus exactement, peut-être que si on n'est pas idiot, on ne fera pas les mêmes bêtises, mais on en fera d'autres.
Avec le recul, certains économistes, certains qui ont travaillé sur cette période-là disent quand même on est assez proche de ce qui s'était passé en 29, le type de crise financière, alors à une autre époque bien entendu, mais avec les mêmes conséquences derrière quand on voit en Europe les populismes, etc. On a le même type de ressenti.
Oui, bon, ça a été moins dramatique parce que c'est connu, hein, les systèmes sociaux étaient mieux installés qu'ils ne l'étaient au moment de la crise de 1929, parce que la solidarité internationale a été mise en place, ce qui n'avait pas forcément été le cas à l'époque. Mais oui, on est bien obligé de reconnaître que l'Europe en est très affaiblie, que les États sont très endettés et diminuent la protection sociale, que des générations de jeunes n'ont pas eu de boulot pendant 10 ans. Oui, il y a malheureusement des points communs.
On dit souvent que voilà, on attend de la finance qu'elle se réforme, alors parfois elle va dans l'investissement socialement responsable, mais ça reste encore à la marge. Est-ce que finalement cette financiarisation de l'économie, c'est pas un petit peu la cause justement de ce type de crise à répétition, puisque là on n'en a pas eu encore récemment, mais on en attend une nouvelle.
Oui, c'est la cause. Alors, en même temps, sans les banques, on serait tous paysans, hein. Alors, c'est pas mal d'être paysan, mais l'économie industrielle, les investissements, tous les équipements ont été faits grâce à la banque et elle a fait lever l'endettement. Après, que les financiers non contrôlés fassent des bêtises par appât du gain, c'est une évidence. Et là, pour le coup, vous commenciez cette interview par ce qui a été fait. Beaucoup a été fait. Je dirais même que parfois, les curseurs s'arrêtent jamais au bon endroit. Mais en termes de contrôle, de réglementation, le monde d'aujourd'hui n'a rien à voir à celui d'il y a 10 ans.
Est-ce que ça veut dire malgré tout que on est d'accord, il y a de nouvelles réglementations, mais que ça n'empêchera pas toujours le facteur humain, c'est-à-dire on est dans une période où il y a peu de rendement, donc certains vont aller chercher du rendement, peut-être à des endroits où il y a un risque qui effectivement va se réveiller dans quelques années.
Écoutez, malheureusement, il ne faut pas être bisounours, la réponse est oui. Alors après, vous mentionnez l'ISR, je préfère parler d'ESG, même si c'est la même chose. Enfin, c'est pas exactement la même chose. Ça, c'est un mouvement de fond. Les nouvelles générations sont hyper motivées par le sens de leur travail, par la préservation de la planète. Cette nouvelle génération, encore une fois, il ne faut pas être un bisounours, hein, il y aura tout là-dedans. Mais cette nouvelle génération a clairement beaucoup plus de préoccupations sociales et sociétales que l'avait la nôtre, par exemple.
Donc on peut dire qu'il y a des nouveaux enjeux qui sont aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur ces nouveaux enjeux. Et là, on va dire, bah, effectivement, la finance, de ce point de vue-là, peut jouer un rôle important.
Je le pense, mais il faudra toujours mettre en place des contrôles parce qu'on n'évitera pas, quand il y a tant de pouvoir, quand il y a tant d'argent, on n'évitera pas des dérives, il faut pas être naïf.
En 2018, les États sont quand même très endettés. Voilà, on a parlé de 100% pour la France, il y en a qui en sont au-delà. Certaines entreprises, on commence à parler de dettes cachées. 10 ans après, il y a quand même un certain nombre de choses où on mesure mal finalement ce qui peut se passer parce qu'on se dit, bah voilà, les taux sont en train de remonter. Alors c'est lent, mais on se dit, toutes ces dettes qui ont été accumulées, comment on va sortir de ça?
Ouais, je suis entièrement d'accord. Le seul moyen de sortir de la dette, on le connaît, hein, c'est la forte croissance et la forte inflation. On a du mal à imaginer avoir l'un comme l'autre. Et puis, si on reste à des taux zéro éternellement, on le voit bien, ça crée des distorsions. Donc, oui, objectivement, on ne sait pas très bien comment sortir de ce taux d'endettement des États, des entreprises et des ménages, hein. Donc, ça fait beaucoup. On sous-estime le bouleversement qui a été de vivre dans un environnement à taux zéro. Quand l'argent ne coûte rien, vous faites n'importe quoi avec. Les entreprises empruntent pour acheter leurs propres actions. Les ménages s'endettent jusqu'au cou à 30 ans pour acheter leur logement. Les financiers vont chercher, comme vous le dites, les rendements là où il n'y en a plus. Donc c'est un bouleversement. Alors je ne le critique pas, sans les taux à taux zéro, on serait fait une crise encore plus forte. mais c'est un gros perturbateur de l'environnement économique et sans doute durablement. Oui.
Du côté justement de la manière d'enregistrer les investisseurs, aujourd'hui ils n'ont pas tellement de choix, effectivement ils sont obligés quand même, on sent bien que les banquiers centraux leur ont dit allez prendre du risque.
Oui, alors très sincèrement, moi j'ai des clients, alors des fois je m'en réjouis, des fois je m'en lamente, j'hésite. J'ai des clients qui me disent je fais des actions parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Moi je vends essentiellement des actions, ça m'arrange. Est-ce que ça me rassure? C'est sans doute exagéré. Oui, c'est exact. Le placement sans risque rapporte rien, voire il coûte. Donc ça conduit des investisseurs à prendre du risque, c'est pas mal le risque. Mais il y a des investisseurs qui savent le prendre, il y a des investisseurs qui peuvent le prendre, et il y en a qui ni savent ni peuvent le faire. Et là tous y vont, donc oui, c'est un risque.
Alors, on parlait de Mandarin Gestion et de ses 10 ans comme la Bourse et la Vie TV. Quand on a parlé de vous au cours des dernières années, on a parlé de boutiques. Hein. Il y en a eu d'autres, mais la vôtre, ça faisait partie des boutiques. En 10 ans, qu'est-ce qui a changé dans cette boutique?
Dans la mienne ou dans
Oui,
les
dans la
boutiques en
vôtre.
général? Bon, ben en fait, des tas de choses. Certainement, l'aspect réglementaire. Aujourd'hui, moi, je recrute ou un gérant, ou un, pardon, ou un contrôleur des risques, ou un juriste tous les ans. Donc, ça a changé. Les points morts ont monté. Le coût du risque, le coût du reporting, ça a un coût. Et puis, personnellement, puisqu'on est passé de 0 à 4 milliards, vous savez, on en est à ce stade intermédiaire où l'équipe commando met des patrons intermédiaires, donc c'est pas la même chose. C'est pas forcément facile pour moi de gérer ça. Mais en fait, c'est des soucis de riches, c'est une boîte qui grossit.
L'univers, le vôtre, il a aussi beaucoup évolué. On a parlé de la réglementation, mais on voit bien aussi qu'il y a un mouvement de fond sur la course à la taille. On entend des grands asset managers dire, voilà, il faut que je fasse, que j'aille à 1 000 milliards. À 1 000 milliards, ça va, vu les coûts que vous avez rappelés, il faut que je sois à 1 000 milliards. Il y a des perspectives de rester en dessous?
Oui, en fait, il faut vraiment distinguer. Aujourd'hui, l'industrie est coupée en deux. Amundi, je cite le nom parce que c'est une
Oui.
merveilleuse réussite. Amundi, c'est une logique industrielle. Vous avez une base de coûts installée. Plus vous en mettez dans le tuyau, plus ça gagne de l'argent. C'est de l'industrie. Nous, les boutiques, je reprends votre terme, nous, au contraire, on ne doit pas se battre contre ces gens-là. On ne doit pas aller se battre sur des tarifs. On ne doit pas aller sur des produits mainstream pour employer du jargon. Donc notre boulot, c'est de trouver des niches, c'est-à-dire des produits soit performants, soit innovants, soit les deux. C'est pas facile tous les matins. Et là, on a la place pour faire des marges. Nous, la contrainte de taille, elle est liée au coût de la réglementation. Vous savez, il y a 10 ans, à 300 millions, à 3 d'un Haussmannien, on gagnait sa vie. Aujourd'hui, c'est plus possible. Mais on n'est pas dans cette logique de course à la taille, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un aspect industriel du métier qui n'est pas celui. Si nous, les boutiques, on se lance dans le côté industriel, ça, on est sûr de perdre. C'est pas ça qu'on doit faire. Nous, on doit trouver des niches.
Il y a quand même eu des acquisitions, voilà, ça a quand même bougé. Il y a des boutiques qui ont intégré des grands groupes. C'est quelque chose aussi que vous avez en tête un jour ou l'autre?
Vous savez, entre une institution et un particulier, on sait qui c'est qui gagne à la fin. Hein. Bon. Non, je ne l'ai pas à échéance prévisible. Notamment, je vais vous dire, une vraie raison, c'est que j'ai des enfants de 14 à 15 ans à la maison, donc ce n'est pas le moment d'aller faire le tour du monde. Et puis j'ai des projets, plus sérieusement, j'ai des idées de développement. Il faut voir que dans ces regroupements, il y a ce qu'on évoquait, une course à la taille pour des raisons spécifiques dans les boutiques, mais qui existent. Il y a une autre raison aussi, c'est une raison générationnelle. Hein, tous ces gens, ou en tout cas une partie d'entre eux qui sont en train de se vendre, etc., c'est juste des gens qui avaient fait leur boutique il y a 20-30 ans, qui ont bien réussi. Et comme par hasard, bah, ça arrive à peu près en même temps. Hein, voilà, il y a un aspect générationnel qui compte.
Merci Marc Renaud d'avoir fait le point avec nous sur ces 10
Merci à
ans et
vous.
on vous souhaite une longue vie.
Merci.